Tu y as pêché baobab acajou.
Dur de la feuille.
Baobab acajou. Tu y as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron cyprès, pin tes landes palissandres. Mes lèzes tremblent être noyés.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit enchanteur avant de connaître les rendez-vous et les moments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. L'obligation légale de débroussaillement. Que veut dire débroussailler? Pourquoi a-t-on inscrit une obligation dans le cadre légal? Qui est concerné? Y a-t-il des zones spécifiques qui nécessitent cette opération? Comment doit-on appliquer cette action et le vivant dans tout ça? Retirer la broussaille est une action très forte sur les écosystèmes et est encadrée par une réglementation très stricte afin de limiter les dégâts de ces opérations sur la biodiversité. Elle peut se résumer ainsi dans le code forestier. On entend par débroussaillement la coupe ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse, la coupe ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d'arbres, la coupe d'arbustes non situés sous couvert forestier, afin que le houppier des arbustes soit mis à distance de 3 mètres en tout point des houppiers des autres arbustes maintenus, des arbres, des constructions, chantiers ou installations de toute nature. La coupe de branches ou d'arbres afin qu'aucune branche ou qu'aucun arbre ne soit situé à moins de 3 mètres en tout point des constructions, chantiers ou installations. L'élagage des arbres et arbustes afin qu'aucune branche ne retourne à moins de 2,50 m du sol. Cet élagage ne doit cependant pas conduire à élaguer plus du tiers de la hauteur totale de l'arbuste ou de l'arbre. Le dégagement de toute végétation présente au-dessus de l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique et des voies d'accès aux constructions, chantiers. Cette modalité est mise en œuvre en réalisant un gabarit de 5 mètres de hauteur et 5 mètres de largeur, bande de roulement comprise au-dessus des voies de circulation. L'élimination des bois et arbres morts, sauf les arbres morts qui sont encore sur pied, qui sont encore debout. L'élimination par broyage ou par exportation de l'ensemble des produits végétaux issus du débroussaillement. Toute la France n'est pas concernée par cette obligation. Loin de là. Le code forestier fixe une obligation légale de débroussaillement dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, exposés au risque d'incendie, ainsi que dans la zone périphérique de ces espaces, jusqu'à 200 mètres autour. Les bois et forêts concernés sont fixés par arrêté ministériel. Il concerne 52 départements en France, dans lesquels tout ou partie des espaces forestiers précités sont classés. La plupart du temps, les préfectures mettent à disposition le zonage concerné. Vous pouvez trouver, depuis 2023, sur l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, l'IGN, une cartographie mise en ligne sur Géoportail qui montre toutes ces zones de débroussaillement. Cette carte en ligne, dont le lien est sur le podcast de cet épisode, permet à tout citoyen de pouvoir localiser son terrain et savoir s'il est soumis ou non à la réglementation sur les obligations légales de débroussaillement. Dès lors qu'il existe une habitation, une construction, une installation de toute nature ou une voirie située dans ce zonage, c'est-à-dire à l'intérieur ou à moins de 200 mètres d'un massif forestier, d'une lande, d'un maquis, d'une garrigue, il est nécessaire de débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de ces équipements. Là où cette obligation s'applique, il faut débroussailler même si la zone à débroussailler se situe sur la propriété du voisin. Cette profondeur peut être portée à 100 mètres par le maire ou par le préfet. notamment en cas de plan de prévention des risques d'incendie de forêt. Il s'agit donc bien d'une opération forestière qui vise à diminuer l'intensité d'un incendie en diminuant la quantité du combustible présent notamment aux abords des habitations et à ralentir la progression d'un incendie en créant une discontinuité dans la végétation. Concrètement, moins il y a de matière, combustible disponible, moins le feu sera puissant. Plus un arbre sera isolé d'une habitation ou d'un autre arbre, plus le feu aura de mal à se propager. Dans les Hauts-de-France, il n'y a pas de zone identifiée pour cette obligation de débroussaillement. Gardons cependant à l'esprit que notre climat en mutation pourrait amener à revoir dans les années à venir ce zonage, et il est intéressant de le connaître. Ainsi, dans les départements concernés, il semble important d'être clair. Le débroussaillement ne vise pas à faire disparaître l'état boisé, mais doit au contraire permettre le développement normal des boisements concernés. Il faut laisser suffisamment de semis et de jeunes arbres, de manière à constituer ultérieurement un peuplement d'arbres complet. Il ne faut pas confondre le débroussaillement avec une coupe rase, qui vise à couper tous les arbres sur un espace, ou un défrichement, qui est un changement de la nature d'occupation du sol et pour lequel une autorisation est nécessaire. Plusieurs règles doivent être respectées lors de ces opérations afin de protéger la biodiversité et en particulier les espèces protégées et leurs habitats. Pour cela, des mesures simples sont mises en place. Il faut réaliser les travaux de manière progressive dans l'espace. Ne pas intervenir dans les boisements de bords de cours d'eau et de plans d'eau. Préserver les arbres à cavité apparente, ceux qui sont taillés en têtard ou les arbres morts sur pied à plus de 3 mètres des constructions. Il faut préserver les arbres remarquables, respecter les dates d'intervention. Les coupes d'arbres et d'arbustes, c'est en hiver. L'entretien des zones déjà débroussaillées, c'est au printemps. La réalisation du broyage en plein, c'est-à-dire d'un broyage où il n'y a jamais eu d'intervention, est interdite entre le 1er mars et le 30 septembre. Pour savoir si votre propriété est susceptible d'abriter des espèces protégées menacées, une cartographie est consultable à l'adresse suivante, en lien de ce podcast, ou en tapant « obligation légale de débroussaillement, présence connue d'espèces protégées menacées ». Dans les périmètres des sites Natura 2000, des réserves naturelles, des espaces naturels sensibles et des sites du Conservatoire des espaces naturels ou de l'ONF, l'Office national des forêts, une mesure complémentaire s'applique. On souhaite maintenir des îlots de végétation dans les conditions prévues par l'arrêté. L'intégralité des mesures prises pour l'évitement des impacts sur les espèces protégées et leurs habitats est détaillée dans ce présent arrêté. La majorité des incendies ont une cause humaine. Et malheureusement, si le débroussaillement est pratiqué pendant la sécheresse, il y a un risque accru d'incendie. Par ailleurs, il est clairement exposé dans le code forestier de veiller à ne pas détruire des espèces lors du débroussaillement pendant la période de nidification. En cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement, on peut s'exposer à des sanctions assez dures. Une sanction pénale allant d'une amende de 1500 euros et de 50 euros par un mètre carré non débroussaillé à une sanction administrative. Le maire peut vous mettre en demeure de débroussailler et cette mise en demeure peut être accompagnée d'une astreinte de 100 euros maximum par jour de retard. Le maire peut également exécuter d'office les travaux de débroussaillement à vos frais. Vous pouvez également vous voir infliger une amende administrative allant jusqu'à 50 euros par mètre carré non débroussaillé. Et il y a bien sûr une majoration de la franchise d'assurance avec un montant de 5000 euros maximum. Un feu ardent gagne peut-être vos pensées. Que diriez-vous de l'apaiser avec un conte enchanteur ? Tendons un instant la feuille à un mythe des Amérindiens. Le feu des Indiens.
Le soir, quand le soleil se couche derrière les collines, les anciens racontent les légendes du peuple indien. Les guerriers écoutent avec leurs femmes, les squaws, et même leurs papouses, les bébés indiens. Tout le monde attend la légende du soir. Et tout à coup, dans la nuit qui s'installe, la voix du conteur se fait entendre.
Il y a
a très très longtemps, tellement longtemps que les animaux parlaient encore, il y avait une vallée que l'on appelait la vallée maudite. Il n'y avait ni automne, ni printemps, ni été. L'hiver s'y était installé une bonne fois pour toutes. Les animaux, l'herbe et les arbres souffraient toute l'année. Ils souffraient de la pluie, du vent, de la neige et de la glace. Une nuit, bien plus noire que toutes les autres, une terrible tempête s'abattit sur la vallée. Dévastant tout sur son passage, elle déracinait les arbres, arrachait les rochers, faisait déborder les rivières et bousculait les animaux qui s'enfuyaient en hurlant de terreur. Seul, au milieu des marécages, sur un petit îlot, un seul arbre restait debout. C'était un érable qui, sans s'inquiéter de la tempête, chantait les beautés du printemps. La tempête furieuse lança sur l'érable ses vents les plus violents. Mais l'arbre continua de chanter. Alors la tempête jeta sur l'érable une gerbe de foudre et l'arbre brûla immédiatement. « Ça t'apprendra à chanter le printemps pendant que je dévaste le monde !» Et la tempête continua son chemin pour tout détruire sur son passage. Et tout à coup, un chant très doux monta vers le ciel. C'était le chant de l'érable que la foudre, charmée par la mélodie, avait préservé dans ses flammes vives. Et les langues rouges qui montaient des racines brûlées chantaient les beautés du printemps. Le chant grandit, grandit et atteignit la caverne où tous les animaux s'étaient réfugiés. En l'entendant, les animaux osèrent sortir, tremblant de peur et de froid. Et se laissant guider par cette musique douce et rassurante, ils gagnèrent une falaise qui surplombait les marécages. Au milieu, l'érable était couché, foudroyé, et il brûlait toujours.
« C'est le feu qui chante !» s'exclama l'ours. « Je le connais bien. Il réchauffe tous ceux qui l'entourent. »«
Il nous le faut !»
dit l'araignée.
« Je cours l'attraper !»
Mais le corbeau l'arrêta.
« Crois, ne sois pas ridicule avec ton corps chétif et tes pattes toutes tordues. Comment t'y prendras-tu, crois ?» « Non, non, c'est moi qui irai, crois !»
Et l'oiseau s'envola vers l'îlot où était l'érable.
Mais on ne capture pas le feu aussi facilement, et le corbeau n'est pas connu pour être un animal rusé.
Avec sa griffe, le corbeau attrapa un tison qui traînait. Mais il se brûla si cruellement les pattes et les ailes qu'il reprit aussitôt le chemin des airs.
Ah, tu n'es qu'un maladroit !»
lui dit le lézard.
« Et tes plumes brûlent trop bien. Moi, j'ai la peau sèche et rugueuse. Laisse-moi faire !»
Mais on le vit revenir bien plus vite que le corbeau, la queue toute brûlée. Les animaux commencèrent à se dire qu'ils n'arriveraient jamais à capturer le feu. Alors l'araignée fit entendre de nouveau sa petite voix.
« Je sais comment ramener le feu !» « Je crois vous l'avoir déjà dit. »
Et cette fois, personne ne se moqua d'elle.
« Courage,
vas-y. »«
C'est notre dernière chance. »
Le voyage fut très long. La tempête avait semé des centaines d'obstacles sur son chemin. Des ronces, des arbres déracinés, des rochers en travers de la route, des branches cassées. L'araignée dut les franchir un par un, avec beaucoup de précautions pour ne pas se faire mal. Et à la fin de la journée, elle arriva enfin à l'îlot et s'approcha, exténuée, des braises qui fumaient encore. Elle choisit un tison bien rouge et elle enroula son fil autour du morceau de bois brûlant. Puis elle dit quelques paroles magiques.
« Abracadabrule du bois qui brûle, que le fil s'entortille dans la brindille qui fume !» souffli souffla, le feu raplapla.
Et la braise arrêta de brûler le fil de l'araignée. Son cœur était si léger à l'idée de rapporter le feu à ses compagnons que le voyage du retour fut de la rigolade.
Bravo l'araignée !
Mais personne n'osa toucher son paquet de fil avec la braise rouge à l'intérieur. Comment apprivoiser le feu quand l'araignée déroulera son fil ? Alors Madame la Chouette, sage et prudente, s'approcha et dit aux autres.
« Foufou, le feu nous a chanté son amitié et nous a donné une partie de lui-même. Il nous faut le nourrir si nous voulons garder sa chaleur. »
Tous les animaux se mirent à réfléchir. Que pouvait bien manger le feu ?
« Des noisettes !»
lança l'écureuil.
« Du miel !» grogna l'ours.
« Des graines !»
caqueta la poule. Ce fut un arbre qui trouva la réponse, un bouleau très grand, lisse et noir et blanc.
« Donnez mon écorce à notre ami ! Mon père me racontait souvent combien notre écorce était appréciée et combien elle brûlait bien. »
Alors le castor s'approcha de l'arbre et clac ! D'un coup de dent, il découpa un morceau de la robe noire et blanche de l'arbre et le jeta sur la braise. Puis il agita sa queue plate au-dessus du tison comme un éventail et bientôt une flamme chaude et belle s'éleva dans les airs. Et depuis ce jour-là, grâce à l'araignée, au castor et au bouleau, on nourrit le feu pour qu'il ne meure pas. La voix du conteur s'était arrêtée de résonner dans la clairière du camp d'Indiens. Tout le monde autour du feu était silencieux. Les guerriers, les squaws et les papous écoutaient tous les flammes chanter la mélodie que l'érable leur avait appris, il y a bien longtemps, quand la tempête soufflait dans la vallée maudite.
Les dangers de la monoculture de pins dans le massif landais ont été dénoncés par les ingénieurs forestiers depuis plus d'un siècle. Ils n'ont eu de cesse de proposer la constitution de larges espaces de feuillus, de cultures et de pare-feux pour limiter les propagations des incendies alimentés par un pin combustible. Le collectif Forêt Vivante Sud-Gironde, constitué de citoyens, citoyennes, d'experts forestiers et d'habitants du Sud-Gironde, s'insurge contre la monoculture intensive et industrielle du pin maritime hautement inflammable qui assèche les vallées de la Lair, du Ciron et des Landes girondines par une artificialisation des espaces. Petit à petit, les propriétaires citoyens, petits propriétaires des communes les plus exposées au risque, ont rejoint ce mouvement et tentent de configurer les bois autrement. Seuls les industriels, grand majoritaire sur le territoire et dont les cultures sont subventionnées par l'État, se refusent pour l'instant à opérer des changements. Ce collectif, Forêt Vivante, fait partie du réseau pour une alternative forestière, qui promeut notamment l'acquisition de parcelles forestières comme des groupements forestiers citoyens écologiques. Toute citoyenne ou citoyen peut y participer de sorte à favoriser la biodiversité tout en respectant les obligations légales de débroussaillement si les zones sont concernées. L'ensemble de leurs activités sont relayées dans la newsletter RAFFUT, R-A-F-F-U-T. Et si le bois crépite, c'est qu'il y a encore une forêt derrière prête à se relever. L'écureuil et le jet des chênes y poseront glands et noisettes. Les papillons et autres butineurs se nicheront sur les premières fleurs, avant qu'enfin, les jeunes arbres engloutissent à nouveau cette jeune prairie.
Jogura mare linea e a vida che dura, c'è un diamante rambi, qui da dopo ci chibra, menina piccinina, tonta di tanto chorà, te choro malacoa e la chievo mi baia. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser, lance bien la pierre, prends garde.
Tu y as pêché où? Baobab, acajou.
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à un épisode de La Clé des Champs, direction La Réunion.
Cyprès, pin des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.